Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant que de vous donner le sermon, une petite note importante aussi. J'ai publié, à la demande de beaucoup de personnes, déjà le calendrier des retraites 2017. Que les gens puissent s'organiser longtemps à l'avant pour venir faire les retraites. Donc le calendrier est publié sur les feuilles jaunes. Ils sont déjà à l'entrée de la chapelle ici. Donc d'un côté, vous avez les dernières retraites 2016. Et de l'autre côté de la feuille, vous avez toutes les retraites 2017. Comme cette année, 16 retraites, 8 retraites pour les dames, pour les hommes, pardon, 6 retraites pour les dames et 2 retraites pour les ménages. J'ai commencé aussi pour cette année qui vient, donc les retraites de 6 jours, une retraite de 6 jours pour les hommes, une retraite de 6 jours pour les dames, mais ces retraites de 6 jours ne seront ouvertes que pour les personnes qui ont déjà suivi l'exercice Saint-Ignace en 5 jours. Donc prenez les papiers. Et faites un peu cet apostolat des retraites qui est tellement important, puisque c'est pratiquement l'unique moyen aujourd'hui d'arriver à convertir les gens en profondeur. Je voudrais vous parler un peu évidemment des deux textes liturgiques, Galates chapitre 7, Saint-Luc chapitre 7. Il y a dans le texte de Saint-Paul un avertissement très fort. Deus non eriditur, de Dieu on ne se moque pas. Alors posez-nous la question toute simple, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Qu'est-ce que signifie le terme « se moquer de Dieu » Eh bien, mes bien chers frères, on se moque de Dieu quand on répète la phrase qu'a prononcée pour la première fois le démon « Je ne servirai pas, non serviam ». À chaque fois que je refuse catégoriquement de servir notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que je préfère servir le démon, le servir notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, eh bien, à chaque fois, je me moque de Dieu. Donc, se moquer de Dieu, c'est tout simplement commettre le péché grave. Et quelqu'un qui reste dans le péché grave continue de se moquer de Dieu constamment. C'est pour cela, mes bien chers frères, il faut sortir du péché au plus vite. Rappelez-vous Saint-Pierre, une fois, qui demandait à notre Seigneur, « Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner le pécheur ? Sept fois. » Notre Seigneur lui répond, « Non pas sept fois, mais 70 fois cette fois. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours, systématiquement, quand il y a le regret de ses péchés, quand il y a l'accusation des péchés et le désir de réparer les péchés autant que faire se peut, il faut pardonner, le prêtre doit pardonner. Donc attention, mes bien chers frères, ne jamais se moquer de Dieu en commettant le péché grave et encore moins se moquer encore plus de Dieu en restant dans le péché grave alors qu'on a à sa porte la possibilité de se confesser. Imaginez quelqu'un qui meurt de faim, qui a à côté une maison remplie de victuailles, donc il pourrait se nourrir et sauver sa vie, et qui par paresse refuse d'ouvrir la porte de la maison à côté de chez lui pour se nourrir. Mais c'est la même chose que nous faisons avec notre âme. Commettre une faute grave, c'est déjà gravissime en tant que tel. Ne pas se confesser au plus vite quand on en a la possibilité, là c'est encore beaucoup plus grave, c'est une présomption. Je me moque de Dieu encore un peu plus. Alors celui qui ne se moque pas de Dieu, eh bien le jour de sa mort, il aura en face de lui la miséricorde du bon Dieu. Et celui qui se moque de Dieu, il aura en face de lui le jour de sa mort la justice de Dieu. La justice est tempérée par la miséricorde, mais la miséricorde évidemment ouvre le cœur du bon Dieu pour que le pécheur repentant qui vient de se confesser puisse venir trouver refuge dans ce sacré cœur. Contrairement à celui qui refuse catégoriquement de se convertir, ne pourra pas avoir accès à la miséricorde du bon Dieu. Il aura accès à sa justice. Et saint Paul va répéter la même chose dans son épître d'une façon un petit peu différente. Il dit celui qui sème dans la chair récoltera la corruption. Et au contraire, celui qui sème dans l'esprit récoltera la vie éternelle. Donc c'est à nous, mes bien chers frères, de faire très attention, de bien semer là où il faut. Rappelez-vous la parabole du bon grain, quand ce bon grain tombe dans le bon champ qui est préparé pour recevoir le grain, à ce moment-là, le grain immédiatement va fructifier et va donner du fruit soit à 30%, soit à 60%, soit à 100%. Il y a d'autres conseils que nous donne saint Paul, qui est un épître encore une fois très riche. Saint Paul nous dit, faisons le bien alors que nous avons encore du temps. Une phrase un peu mystérieuse. Ça veut dire quoi? C'est un avertissement, en fin de compte. Le bon Dieu nous dit, attention, un jour, nous n'aurons plus de temps. N'oubliez pas que le passage après la mort, c'est le passage du temps à l'éternité. Et une fois qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de moyen de changer l'état de notre âme. Une fois qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de moyen même de gagner des mérites. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, utiliser le temps ici-bas, pour charger notre âme de ses mérites. Une fois qu'on est mort, une fois qu'on a quitté le temps, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Donc il faut, mes bien chers frères, se méfier justement de ce temps qui passe et qui ne repasse pas. Voilà pourquoi il nous faut utiliser toutes les grâces que le bon Dieu nous donne jour après jour, et sans les gaspiller, parce que, vous connaissez la phrase, craignons la grâce qui passe une fois qu'il ne repasse pas. Le bon Dieu nous donne des grâces de conversion, le bon Dieu nous donne des grâces pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Il n'est pas obligé de nous redonner ses grâces tous les matins. S'il voit que nous refusons d'utiliser ses grâces, qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit que nous refusons d'utiliser ses grâces, eh bien, il va nous les enlever, ses grâces, tout simplement. Et il les donnera à quelqu'un d'autre qui en fera un meilleur usage. Il y a encore une autre phrase dans cette épître de Saint Paul. Saint Paul nous dit que si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. Phrase bien forte. Si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. Ça veut dire quoi ? Se rappeler, pour comprendre cette phrase, je pense qu'il faut utiliser une phrase très connue de saint Augustin. Saint Augustin dit, tout ce qui est bon en moi vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais en moi vient de moi-même. Donc toute personne qui pense que ce qui est bien en lui vient de lui-même, de son propre fond, immédiatement tombe encore une fois dans le péché de présomption. Et donc il se séduit lui-même. Saint Paul met cette phrase dans cette épître pour bien nous montrer que la première condition, justement, pour pouvoir utiliser les grâces du bon Dieu, c'est de se maintenir dans la vertu d'humilité. La vertu qui ouvre, en quelque sorte, la porte des grâces du bon Dieu, c'est la vertu d'humilité, la vertu de docilité. Et la vertu de docilité, c'est quoi? La vertu par laquelle je reconnais que je ne puis rien sans moi-même. Je ne puis rien, pardon, par moi-même, et que j'ai impérativement besoin de la grâce du bon Dieu pour pouvoir le suivre. Je ne peux pas bouger le petit bout du petit doigt sans la grâce du bon Dieu, c'est impossible. Donc nous rappeler, mes bien chers frères, qu'il ne faut pas trop compter sur nous-mêmes. On entend trop souvent des fidèles qui nous disent, tous des jeunes, qui nous disent, monsieur l'abbé, pas de problème, moi j'ai la foi ficelée au corps, je ne la perdrai jamais. Oui. Regardez un peu autour de vous. Regardez où était la France chrétienne, soi-disant chrétienne des années 50. Elle est où? Elle est morte. Parce que la plupart des fidèles, des catholiques des années 50, des années 60, n'ont pas été capables de transmettre à leurs enfants leur foi. Et donc les enfants ont perdu cette foi. Et ce sera la même chose pour nous. Et si nous ne sommes pas capables de transférer, de transmettre à nos enfants la foi catholique, qu'est-ce qui va se passer? Et nos enfants vont la perdre. Et donc il faut bien compter sur notre Seigneur Jésus-Christ et pas sur nos propres forces afin de continuer avec fermeté de garder cette foi qui est nécessaire au salut. Le bon Dieu, certes, peut faire des miracles. Le bon Dieu peut ressusciter des morts, une âme qui est morte dans le péché. C'est pour cela que l'Église a choisi pour accompagner cette épître, une des résurrections de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite ici dans l'évangile de ce jour, il ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Donc cette veuve avait un seul enfant, elle perd son enfant unique. Alors, elle est désespérée parce qu'elle a perdu son bâton de vieillesse, elle ne sait pas comment elle va faire pour se nourrir et pour se sustenter, parce qu'elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle. Et toute la foule du village, les gens du village suivent la foule en pleurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ voit ce cortège qui s'approche de lui. Et il y a un terme très beau, il est dit dans l'Évangile, il fut mu par la compassion. Un sentiment très humain, mais qui est aussi un sentiment divin, attention. Lorsque le bon Dieu voit une âme dans le péché, parce que cet homme qui est étendu dans le cercueil, porté par quatre porteurs, porté au cimetière, c'est le symbole du péché, bien sûr. Eh bien, lorsque le bon Dieu voit un homme qui est dans le péché, et qui donc, étant dans le péché, se retrouve complètement paralysé, incapable de marcher par lui-même, il est mu par la compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a qu'un désir, c'est de ressusciter cette personne pour que cette personne puisse retrouver l'état de grâce et, retrouvant l'état de grâce, soit capable de nouveau de marcher sur le chemin qui le mène au ciel. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ arrête la foule. Parce que son cœur est ému par la compassion, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais, dans son essence même, est beaucoup plus prompt à utiliser sa miséricorde que d'utiliser sa justice. On dit, et c'est très vrai, que notre Seigneur Jésus-Christ utilise sa justice vraiment quand on l'oblige à le faire. Mais par lui-même, en tant que Dieu, il n'a qu'un désir, c'est de sauver les gens. On dit, c'est la phrase de saint Thomas d'Aquin qui est bien connue, que de volonté antécédente, Dieu veut sauver tous les hommes. Malheureusement, de volonté conséquente, beaucoup ne veulent pas être sauvés, ne prennent pas les moyens pour cela. Et donc Dieu, évidemment, ne sauvera pas ces personnes contre leur volonté. Si le bon Dieu nous a créés sans nous demander notre avis, il ne sauvera pas sans notre avis. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a cette phrase magnifique à la mère de l'enfant. Il lui dit, ne pleure pas, nauliflerez. Ne pleure pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne tombez pas dans le découragement. Ce n'est pas parce que vous avez commis une faute grave que nous devons tomber dans le découragement et nous mettre à pleurer parce que nous pensons que nous n'arriverons plus à nous en sortir. C'est pour cela que Dieu arrête le cercueil pour justement lui donner cette grâce de la résurrection. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va faire le miracle et va ressusciter ce jeune homme. Alors, il faut voir un petit peu ce qu'il y a comme sens mystique derrière chez les pères de l'Église. Cet homme qui est dans le cercueil, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, c'est le pécheur. Et la maman qui pleure représente quoi? La maman qui pleure représente l'Église, mes bien chers frères. C'est l'Église qui pleure jour après jour, surtout pendant le sacrifice de la messe, qui pleure pour obtenir du bon Dieu les grâces nécessaires pour la résurrection de ses enfants. Donc l'Église pleure d'une part parce que beaucoup de ses enfants ont vécu dans le péché, mais l'Église aussi pleure au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied du Sacré-Cœur, pour obtenir du Sacré-Cœur, que ce Sacré-Cœur ouvre les portes de son cœur, parce que justement toutes les grâces qui sont gardées et conservées dans sa Sacré-Cœur puissent être utilisées. Et pour cela encore faut-il que le cercueil s'arrête. Et encore faut-il qu'on se mette au pied du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a trois choses. Il y a le cercueil qui représente la mort. Il y a la mère, la veuve qui pleure la perte de son fils. Ça, c'est l'Église. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'arrête, c'est le Sacré-Cœur. Et si le cercueil accepte de s'arrêter, à ce moment-là, il trouvera dans le Sacré-Cœur toutes les grâces dont il a besoin. Évidemment, si le cercueil ne veut pas s'arrêter, et si le mort spirituel continue sa route, eh bien, évidemment, il n'y aura rien qui sera fait, absolument rien pourra être fait, et il n'y aura pas la grâce de la conversion. Mais bien, chers frères, nous sommes un petit peu, nous tous, comme ce mort. Et quand nous sommes morts spirituellement parlant, je dirais, par nous-mêmes, on ne peut plus rien faire. Donc on est obligé de compter sur les grâces qui nous sont données par le bon Dieu. Le bon Dieu accepte de donner des grâces même à ceux qui sont morts spirituellement parlant. Le bon Dieu accepte de donner des grâces, qu'on appelle des grâces actuelles, à quelqu'un qui est en état de péché mortel. Saint Augustin dit encore, celui qui n'a pas eu honte de péché, qui n'est pas honte de s'agenouiller au pied de son Rédempteur. Donc nous devons justement utiliser cet évangile d'aujourd'hui pour comprendre la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ accepte de ressusciter les morts spirituels. Et beaucoup de pères font une très belle comparaison. Ils montrent que notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile a ressuscité trois personnes. Au moins ce que nous savons par l'évangile. Il a ressuscité la petite fille du chef de la synagogue, il a ressuscité la fille de la veuve de Naïm, il a ressuscité Lazare. Bien sûr, il s'est ressuscité lui-même. Mais les pères, c'est très beau, montrent qu'il y a une progression dans les choses. Il y a des détails qui changent. Pour la fille, la petite fille du chef de la synagogue, elle vient de mourir, elle est encore sur son lit. Pour le fils de la veuve de Naïm, il a quitté le lit funéraire, il est déjà dans le cercueil, en voie vers le cimetière. Quant à Saint-Lazare, il est déjà dans la tombe, tombe fermée, son corps en train de pourrir. Pourquoi trois cas différents? Bien, les pères de l'Église expliquent très bien que cela représente les différents degrés du péché. Lorsque je commets un péché mortel, un simple péché mortel, j'irais de faiblesse, eh bien c'est le premier cas. Je suis encore sur le lit funéraire, notre Seigneur Jésus-Christ peut venir et ressusciter cet enfant directement sur le lit de douleur, sur le lit de la mort. Le deuxième cas, l'enfant est déjà porté vers le cimetière. C'est plus grave. Ça présente le péché mortel délibéré, répété. Et pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ peut aussi effacer ce péché délibéré, eh bien, le bon Dieu va ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Et troisième cas, c'est Saint Lazare qui est déjà au tombeau depuis 4 jours. Sa chair est déjà en train de se corrompre. Cela représente le péché d'habitude, le vice. Et notre Seigneur Jésus-Christ va aussi ressusciter Saint Lazare pour bien montrer qu'en tant que Dieu, il peut ressusciter tous les pécheurs, même ceux qui sont ancrés dans le péché jusqu'au cou. Parce que le bon Dieu, dans sa miséricorde, donne ses grâces à tous les pécheurs. Et qu'il aime même encore plus les gros pécheurs que les petits pécheurs. Parce que les gros pécheurs sont obligés davantage d'utiliser la miséricorde du bon Dieu que les petits pécheurs. Pour cela qu'il est bien mis dans l'évangile que notre Seigneur Jésus-Christ avait un amour tout particulier pour Saint Lazare. Il n'avait pas cet amour très marqué, je dirais, pour la fille du chef de la synagogue, il l'a ressuscité quand même. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous aider à ne jamais, jamais nous décourager après le péché. La pire des choses, ce n'est pas le péché en lui-même. La pire des choses, c'est se décourager après le péché. Tomber dans le désespoir de son propre salut. C'est une chose tellement grave que l'Église classe cette action désespérée de son propre salut parmi les péchés contre le Saint-Esprit. Et Saint Paul explique que tant qu'une âme est dans cette situation-là, elle est insoignable. Le pire des malheurs qui puissent nous arriver, c'est perdre la foi en la miséricorde infinie du bon Dieu. C'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup parler de la miséricorde. Et plus on parle de la miséricorde, plus on comprend la gravité du péché d'une part, et en même temps l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut qu'une seule chose, c'est justement sauver toutes les âmes. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à avoir accès à cette grâce. N'oublions pas que toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour nous, elles ne sont pas transférées directement du Sacré-Cœur à notre âme, elles passent par la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes ces grâces. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de savoir porter en son cœur immaculé toutes les grâces qui viennent du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'elle puisse venir nous les infuser dans notre propre cœur afin que nous soyons capables d'utiliser ces grâces pour se convertir et devenir un amant de notre Seigneur Jésus-Christ, amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ en proportion exactement du nombre de péchés qu'on a commis auparavant. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ aime davantage un gros pécheur qu'un petit pécheur, et c'est très vrai. N'oublions pas la conséquence. La conséquence, c'est qu'un gros pécheur qui vient d'être pardonné doit aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ qu'un petit pécheur qui a été pardonné, parce que le gros pécheur qui a été pardonné doit plus à notre Seigneur. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.